Allez, asseyez, Rioulet. On va vous soigner. Qui c'est le chef? C'est toi?
Écoutez, monsieur, je comprends rien à toutes vos questions. Je suis venu consulter et je me retrouve dans une affaire dont j'ignore tout.
Menteur! Linda! Linda!
Der Hörner sehen, ich werde jedes Wort aus dir rausprügeln.
Jedes Wort! Führer Kalle!
En 1943, dans la France occupée, la résistance intérieure s'efforce d'unifier ses efforts et intensifie ses activités. Une montée en puissance qui n'échappe pas aux nazis. La répression se fait de plus en plus violente et les coups de filet s'enchaînent à un rythme effréné. L'été de cette année noire s'avère particulièrement dévastateur pour l'armée des ombres. À Paris, trahis par un agent infiltré, plusieurs dizaines de membres du mouvement Défense de la France sont arrêtés. Parmi eux, le responsable de la diffusion du journal, un étudiant brillant, du nom de Jacques Lucéran. Interrogé par la Gestapo, violenté, humilié, Jacques invente mille histoires pour protéger ses camarades et s'en sortir vivant. Mais, comme beaucoup de ses compagnons, il n'échappe pas à la prison. Et c'est là, dans les geôles sordides de la prison de Fresnes, que pour la première fois depuis l'accident qui l'a rendu aveugle, Jacques plonge dans l'obscurité.
La cécité a rapetissé, a réduit, a limité dans une certaine mesure le monde physique dans lequel je vivais. Exactement comme, 11 ans plus tard, la prison a limité aussi le monde physique autour de moi. J'ai eu en prison, comme tous mes camarades, 4 murs. Mon univers était devenu très exigu. Et surtout, j'étais obligé, si je voulais avoir de la place, de la chercher non plus dans la réalité, mais de la chercher au fond de moi, exactement comme 11 ans plus tôt lorsque j'étais devenu aveugle.
Moi, Lucéran, aveugle et résistant. Un documentaire de Thibaut Delavigne et Antoine Jeunin, réalisé par Marie Placet. Épisode 2, sortir de l'ombre.
Donc, logiquement, un résistant est arrêté, et ce résistant, en règle générale, est emprisonné. Il est emprisonné parce qu'on l'interroge.
Olivier Vieviorca, historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.
Il faut bien le souligner, la torture n'est pas systématique. Lorsque vous êtes un étudiant qui diffuse des tracts, la torture n'est pas systématique. Donc vous êtes interrogé, ce qui peut parfois provoquer des coups, hein, bien évidemment, mais pas ce que l'on appelle la torture. Et puis une fois que vous avez livré ou pas livré ce que vous saviez, en règle générale, vous êtes déporté vers des camps de concentration et non pas vers des centres de mise à mort. Et c'est l'itinéraire qui a malheureusement suivi Jacques Lucéran.
Était arrivé. Quelques-uns d'entre nous crièrent « Trinken, bitte, trinken !» En réponse, il y eut une éruption de coups en plein dans la chair du wagon. Des matraques, des crosses. Ceux qui étaient trop près de la porte roulèrent au dehors. Il fallut se mettre en rang, marcher très vite. Il y avait des chiens tout autour qui mordaient les retardataires. Les SS se ruaient sur nos rangs, par à coups. La mouche, c'était un petit gars de 18 ans, un Nantais. Il m'aimait bien, il voulait me protéger. La mouche eut le poignet brisé par un coup de crosse. Sans lui, je recevais la crosse en plein front. Quelques minutes plus tard, on entendit un orchestre militaire éclater brusquement. Tout un orchestre militaire qui soufflait des espèces d'airs de danse, rangés de chaque côté d'une porte monumentale. Sur la porte, il y avait écrit « Konzentrationslager Buchenwald ».
Au départ, bon, ils sont plusieurs à être déportés à Buchenwald.
Zina Wegan, historienne de la cécité.
Et puis, il y a un moment donné, donc il y a quand même encore ce petit cercle. Enfin, et puis, les autres sont envoyés en commando. Et là, il se retrouve seul et il a un moment de grand désespoir. Il pense qu'il va mourir parce qu'on lui vole son pain, enfin, il est aveugle quand même s'il est très doué, dans un contexte comme le camp. Il y a plusieurs témoignages qui disent à quel point un morceau de pain, c'est capital. Alors, il y a des gens qui le volent. Et Jacques, à un moment donné, c'est ça. Tout d'un coup, on lui vole son pain. Ouais, parce qu'en plus, le bloc des Invalides, il y avait tout aussi. C'était pas que des enfants de cœur héroïques et tout ça. C'était bon. Et puis, de toute façon, dans des circonstances comme ça, les gens se révèlent.
L'image, le souvenir que j'ai des camps de concentration est au fond extrêmement semblable à l'image et au souvenir qu'en ont les autres, j'en suis persuadé. Un camp de concentration, c'est essentiellement un lieu où l'on est pressé, comprimé, serré, où les gens vivent les uns contre et sur les autres. C'est un endroit où vraiment on n'a absolument pas d'espace. C'est aussi un endroit où il y a toutes sortes d'interdits. Il y a des barrières, il y a des fils de fer barbelés, il y a des grillages, il y a, sous peine de la mort, l'interdiction vraiment de dépasser les 10 mètres, les 20 mètres ou les 30 mètres qui sont autour de vous. De sorte que le champ d'action de tout détenu devient extrêmement étroit. Et pour moi, au lieu d'être une gêne, ceci était une espèce d'avantage. Cela me permettait de percevoir d'une façon plus complète et plus réelle, en quelque sorte, le camp. J'étais comme tous les autres. Ce qui se passe à 30 mètres, je pouvais l'entendre. Je pouvais presque le respirer et le sentir.
Bon, il y a des Russes qui l'ont aidé. Il y a un Français qui s'appelle Louis Onillon, qui était, bon, c'était un peu, c'est des gens, enfin, c'était un peu un marginal. Et puis, bon, d'autres personnages, effectivement. Donc, s'il n'y avait pas eu ces gens, alors c'est pareil, dans une réciprocité, parce que il rendait aussi des services. Il comprenait très bien l'allemand, donc il pouvait faire circuler des nouvelles de première main, si j'ose dire. Et il récitait des textes, des poèmes. C'est sa manière à lui d'aider les gens. Et inversement, s'il n'avait pas eu l'aide de ces Russes, des autres camarades comme ça qui s'est fait à Brunwald, il ne s'en serait sûrement pas sorti.
Mon Dieu, oui, tous mes souvenirs ont une couleur et celui-là est un important souvenir pour moi, il en a une aussi. Eh bien, le camp pour moi, c'est un lieu obscur, un lieu sombre, mais sombre en couleur, brun foncé, un marron presque noir par endroits, avec des espèces de passages, de sillons si vous voulez, de traces rouges, ou du moins couleur feu en quelque sorte. Et puis alors, au-dessus de cette espèce de lieu très obscur, il y avait un endroit beaucoup plus libre qui était le ciel. Voyez-vous, le ciel au camp, c'était le seul lieu où les règlements, les ordres ne jouaient plus. Il était d'un gris de perles, si vous voulez, d'un gris extrêmement lumineux, d'une espèce de gris bleu qu'on pourrait appeler, évidemment, d'une certaine façon, la couleur même de la liberté. Pour moi, c'était du moins la direction.
La fameuse vision intérieure de Jacques Lucéran recouvre en réalité une multiplicité de réalités.
Marion Chotin, philosophe de la cécité.
Donc la vision intérieure de Lucéran, c'est tout d'abord tout simplement sa foi chrétienne, son amour pour la vie. N'oublions pas que Jésus lui-même se présente comme lumière du monde. Cependant, lorsque Jacques Lucéran se dit aveugle voyant, il faut aussi l'entendre au sens propre du terme, c'est-à-dire au sens d'une vision qui est parfaitement sensible. Et c'est là qu'interviennent les synesthésies. Donc il est indéniable que Lucéran était synesthète. Donc de quoi s'agit-il ? Les synesthésies sont des phénomènes par lesquelles des modalités sensorielles, des sensations autres que la vue, donc des sensations auditives principalement, mais aussi tactiles, se manifestent à la conscience sous la forme de sensations visuelles, donc sous la forme de couleurs, sous la forme de lumière. Donc le cas le plus typique, l'exemple le plus typique, c'est celui des lettres et des chiffres qui, lorsqu'ils sont dits ou éventuellement touchés d'une manière ou d'une autre, donne lieu à des sortes de flashs de couleurs. Et Lucéran décrit ce phénomène vers le début de « Et la lumière fut ».
A, rouge aux bras ouverts. B, bleu du ciel, toi qui domine et rassure. E, crème couleur muette et l'attente des sons. F orange, G rose des briques, H toute dignité bleu noir, vêtement solennel, I vert clair triomphant, flèche dressée, défi de l'espoir, J bleu tendre, rêverie des souvenirs, L verte et douce montée de la vie et des mains qui prennent, M et N noirs jumeaux noués et sûrs, O pâleur cernée de bleu, paix sans fin des lieux fermés, T défense rose et rouge, double lame, U jaune paille, appel et fuite.
Sans paradoxe, vraiment, quelle merveilleuse expérience que celle de la déportation, qui m'a permis, comme à beaucoup d'autres, de me trouver infiniment plus proche des hommes que je ne l'aurais jamais été sans cela. Il était possible de les voir au moment de leur plus grand courage, ainsi qu'au moment de leur plus grande peur. Ils avaient leur véritable visage et nous pouvions nous connaître. Voyez-vous, on a dit souvent que les camps de concentration avaient condamné l'homme. Je ne le pense absolument pas. Ils ont condamné une certaine attitude de l'homme, voilà tout. Il y a une chose à quoi les camps de concentration n'ont jamais touché, et cela les déportés revenus le savent très bien. Ce à quoi les camps de concentration n'ont jamais touché, c'est la force que nous avons de nous conduire nous-mêmes du dedans de nous, sans attendre que les événements nous guident. À cela, jamais aucun règlement ne pourra rien.
À la fin de la guerre, le camp de Buchenwald, où est détenu Jacques Lucéran, est libéré par l'armée américaine. Il passe par des camps de transit et c'est Philippe Vianney, si je dis pas de bêtises, qui vient le libérer directement. Que fait Philippe Vianney à la fin de la guerre et pourquoi c'est lui qui vient libérer Lucéran ?
Eh bien, vous avez eu quand même une très très forte solidarité entre résistants.
Olivier Vieviorca.
Et Philippe Vianney, en 1945, c'est quand même un personnage. Défense de la France est l'un des premiers mouvements de zone occupée et il a été créé par Philippe Vianney. Et donc, il obtient de pouvoir libérer Lucéran, ce qui veut dire qu'il obtient les laissez-passer, qu'il obtient un véhicule et qu'il obtient de l'essence, hein, ce qui n'est pas rien. Donc là, Philippe Vianney a fait de la libération de Jacques Lucéran un objectif majeur. Il sait quand même qu'il est aveugle et il veut le libérer. Et effectivement, il le retrouve et le ramène en France.
À la fin de la guerre, une fois que Lucéran rentre, dans ses bouquins, il décrit quelque chose de très difficile, un retour qui est très compliqué. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ces résistants, voilà, qui reviennent après la déportation, comment ils sont accueillis, quel est leur statut ?
Une image convenue, à défaut d'être conforme, présente les résistants comme aurait pu dire Léon Blum, les maîtres de l'heure, comme des individus qui, grâce à leurs relations, vont faire absolument des carrières phénoménales. La réalité, et là je parle en termes statistiques, est beaucoup moins glorieuse. Vous avez vécu dans la résistance quand même des moments d'une intensité absolument prodigieuse, et vous revenez dans une vie un peu morne, hein, où une forme d'élan s'est brisée. Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Alors, quand il revient, eh ben, il est comme d'autres. Hein. C'est les déceptions qui les attendent. Hein. Parce que...
Zina Végan.
La France se reconstruit pas tout à fait comme ils auraient voulu. Et puis, ils sont mal accueillis, finalement. On n'a pas envie qu'ils parlent de ce qu'ils ont vécu. C'est la liesse de la libération et on n'a pas forcément envie de savoir... ce qui s'est passé et toutes ces horreurs, quoi. Je veux dire, ces gens, ils ont donné leur jeunesse, ils ont perdu presque tous leurs amis, et puis ils arrivent, ils ont rien. Le journal Défense de la France, ils sont au bord de la faillite, donc finalement, ils vendent au groupe Hachette, enfin, voilà. Et les résistants sont dépossédés de leurs avoirs, quoi. Ils sont des parts et elles sont vendues pour rien du tout, quoi. Donc, ils sont déçus. Et alors, Lucéran, il se trouve que finalement, qu'est-ce qui se passe ? Lui, tout ce qu'il voulait, vraiment, sa vocation, c'était d'enseigner et d'enseigner la littérature française. Et puis, finalement, il donne des cours au cours de civilisation française de la Sorbonne. Et c'est là qu'il y a ces fameuses étudiantes américaines qui sont tellement subjuguées par son enseignement qu'elles en parlent dans leur université et qu'il va pouvoir partir aux États-Unis enseigner le français en français. Et quand après Hollins College, il va être à l'université de Cleveland, il va avoir le prix du meilleur enseignant de l'université, un Français qui enseigne en français.
J'ai vécu 8 ans aux États-Unis et j'y ai exercé mon métier, c'est-à-dire celui de professeur de lettres, de littérature française dans 2 universités successivement. Il est indéniable que l'expérience la plus précieuse que j'ai eue aux États-Unis pendant ces 8 ans a été de découvrir que dans les universités, n'est-ce pas, les professeurs n'étaient pas séparés de leurs élèves, n'étaient pas séparés de leurs étudiants. Il y a un contact personnel constant. Le professeur n'est pas un monsieur, une sorte d'acteur qui se présente sur une tribune, devant une salle de spectacle, comme si souvent, malheureusement, je pense, dans notre pays, en général en Europe. Non, c'est un conseiller, c'est quelqu'un qui est en continuelle conversation avec ses étudiants et eux avec lui, n'est-ce pas? Il y a une façon d'interroger les élèves et pour eux de vous interroger qu'on ne connaît évidemment pas en France.
Quand on voit l'enthousiasme des élèves qui parlent de lui après ou de gens, moi j'ai eu des gens qui l'ont connu aux États-Unis et qui m'en parlaient, mais c'était extraordinaire ce contact. Bon, alors bah, les femmes, forcément, elles tombent sous le charme, quoi. Donc, Jacqueline Pardon, c'est l'ancienne résistante, l'ancienne camarade de défense de la France. Ils se retrouvent après la guerre. Ben voilà, ils se marient, ils ont des enfants. Leur vie est très difficile, ils n'ont pas d'argent. Enfin, ils ont une vie difficile, vraiment. Et puis, bon, arrive Jacqueline Hospital, qui était d'un dévouement absolu. Mais c'était son esclave, hein. Elle l'aidait pour ses cours, elle l'accompagnait aux cours, enfin bon, voilà. Bon, c'était esclave volontaire, hein, c'est pas... Bon, bref. Et puis là-dessus, il y a une jeune et belle, enfin, la dernière, Marie Buceron. Et, alors, c'est une élève, elle représente ses élèves, enfin, qui étaient subjugués par l'enseignement de ce professeur français. Et bon, ils ont une liaison, c'est insupportable. Vous savez, l'Amérique puritaine de l'époque. Hein, bon. Et dire que c'était, comment vous dire, c'était pas du tout un collectionneur, hein, c'est pas ça du tout. Je pense que, en plus, c'est quelqu'un qui a souffert de trahir. Parce qu'évidemment, il avait une conception. Bon. Et je pense que ça a été des relations très compliquées. Très compliqué. Et parce que là, du coup, la seconde, mais ça a été horrible, hein, la fin de leur... elle lui a tendu des pièges dans l'escalier pour qu'il tombe. Enfin, c'était... Elle voulait le tuer, carrément. Enfin, tellement elle était outrée, enfin, blessée, jalouse, enfin, bon, tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Alors, si vous voulez, c'est un personnage... Vous savez, il avait commencé une thèse sur Nerval et le soleil noir de la mélancolie. Hein. Si vous voulez, c'était quelqu'un d'extrêmement... une espèce de fébrilité, de quelque chose. Et il y a des gens qui se sont brûlés, vous voyez, c'est à la fois un amour rayonnant et puis quelque chose de... C'est le soleil noir aussi. Vous savez, les... Il y a des personnes comme ça qui ont un rayonnement, qui ont quelque chose, et puis on peut aussi s'y brûler les ailes. Hein, c'est... Alors, vous savez, j'ai rencontré Jean-Marie Domenac. Domenac, en fait, il a connu Luceron après la guerre. Hein. Ils n'étaient pas du tout dans les mêmes mouvements de résistance. Et puis, il l'a rencontré aussi aux États-Unis, où ils donnaient tous les deux des cours dans une école d'été. Et là, Domenac m'a dit, je n'ai jamais entendu un enseignant aussi extraordinaire. Il avait la façon de s'adresser au public, sa voix, enfin bon, tout. Et tout le monde était complètement sous le charme, enfin captivé par ce qu'il disait, quoi. Et alors, ils étaient donc ensemble, sont allés faire une promenade, et Luceron lui décrivait le paysage. Alors, il m'a dit, ça, j'ai jamais compris. Est-ce qu'il bluffait? Est-ce que vraiment... C'est quand même... Je veux dire qu'il y a des aveugles qui ne supportent pas, hein, ça vaut... Bon.
Sachez que Blue Ridge Parkway est le nom qu'on donne en Virginie à une route. Rien à faire, au long de cette route, sinon rouler à douce allure, s'arrêter et voir. L'autre jour, j'étais là-haut. Je voyais le paysage. Et ceux qui étaient près de moi, avec tous leurs yeux, voyaient eux aussi le paysage, autrement, ni plus ni moins. Illusion! Un aveugle peut entendre, toucher, respirer, deviner un paysage. Il ne saurait le voir. Je vous l'accorde, je ne le voyais pas, je le connaissais. Mais êtes-vous suffisamment assuré de ce que vous faites de vos yeux ou de ce que vos yeux font pour vous, pour affirmer péremptoirement la différence?
C'est là où j'aimerais bien qu'il soit là pour qu'on discute ensemble. Vous voyez? Parce que...
Jacques Semelin, historien.
Son écriture consiste, et sa manière d'être, consiste à occulter sa condition. Son écriture, parce que quand il fait un livre sur les États-Unis, il décrit sa vie aux États-Unis, il n'y a pas un mot pour dire qu'il n'y voit pas, quoi. Bon. Alors, moi, ça m'interroge. Et cette occultation, bien entendu, elle va se traduire dans son langage, dans son écriture, avec dès les premières pages de et La Lumière fut, dans lequel il dit « Aussitôt que je suis devenu aveugle, j'ai vu la lumière. Aussitôt que je suis devenu aveugle, et totalement aveugle, hein, j'ai vu les couleurs. » Je dis, mais il y voit ou il y voit pas? C'est un mystificateur ou pas? C'est un illusionniste?
Lucéron considère que percevoir, c'est voir. Et comme il perçoit, il dit qu'il voit en permanence.
Marion Chotin.
Donc il y a tous ces passages quand même un petit peu, singulier, si ce n'est problématique dans son œuvre. Parce que finalement, en utilisant le vocabulaire de la perception visuelle, Lucéron perpétue finalement cette image traditionnelle de l'aveugle voyant. Or, c'est très paradoxal parce que il est très conscient également de la manière dont la primauté accordée à la vue infériorise les personnes aveugles et fait croire aux non-aveugles, et parfois même par intériorisation aux personnes aveugles elles-mêmes, qu'être aveugle, c'est être ainsi coupé du monde, alors qu'il reste finalement au minimum quatre sens, sans doute davantage, et qu'on perçoit le monde également par ses autres sens.
Nous sommes des milliers à l'avoir connu et admiré, nous sommes nombreux aussi à l'avoir aimé, Jacques Lucéron. Non pas seulement parce que nous avons lu ses livres, non pas seulement parce que nous avons entendu sa parole, mais parce que d'abord et surtout nous savions ce qu'était cette âme, cet esprit, cette volonté, et comment cette volonté ferme et claire avait conduit sa vie.
Bah, il meurt dans un accident. Et bien justement, avec sa troisième femme, donc jeune femme, il s'était marié, il avait un poste à Hawaï, voilà. Bon. Et avec beaucoup d'étudiants, de doctorants, enfin, il recommençait vraiment là une carrière qui pouvait être brillante. Ils sont venus en vacances à Juvardeil, donc le pays de sa mère. Et de là, ils allaient à Nantes et ils avaient une voiture qui tenait pas très bien la route, qui pleuvait, c'était la route d'Anceny, le sol était mouillé et la voiture a fait un... Bon, c'est évidemment, c'est Marie qui conduisait. Et voilà, il avait 47 ans. Elle, je sais pas, elle était plus jeune que lui, hein, beaucoup plus jeune que lui. Donc, et, bon, ben, ils sont enterrés tous les deux à Juvardeil.
Jacques Lucéron meurt donc accidentellement en 1971. Mais je pense que si Lucéron avait vécu davantage, il aurait très bien pu participer aux Disability Studies qui apparaissent aux États-Unis et en Grande-Bretagne à la fin des années 70, puisqu'il soutient des thèses qui sont développées aujourd'hui. C'est comme ça que l'universitaire anglaise Anna Thompson a forgé le concept de blindness gain, la cécité comme gain. Et finalement, c'est exactement ce qu'a fait Jacques Lucéran.
La lumière, c'est mon élément. J'en suis fait. Mais vous aussi, vous les clairvoyants, vous êtes faits de lumière. Sinon, vous ne pourriez pas voir. On vous apprend le contraire, je le sais bien. On vous parle de l'intensité lumineuse de tel objet et de tel autre. On mesure ces intensités. Il y a des unités internationales pour cette mesure. On vous dit en somme que la lumière n'est pas en vous, mais au dehors, et qu'elle vient jusqu'à vous selon des lois qu'il faut peu à peu découvrir. On m'a appris ces choses à moi aussi, mais par expérience, je sais qu'elles sont fausses. Et c'est pourquoi j'ai été joyeux, même dans les moments les plus pénibles de mon existence. Quelqu'un me dit « À vous entendre, tout irait bien. Vous n'êtes pas raisonnable. » Chacun de vos paragraphes se termine par les mots bien-être, contentement, bonheur, confiance. Là-dessus, vous brochez l'harmonie, la paix, et je ne sais quelle vie intérieure dont vous rêvez comme d'un paradis perdu. Vous vous engagez dans la satisfaction universelle comme dans un parti. On vous parle guerre et vous répondez vie, cécité et vous répondez lumière. Mais où sont pour vous la souffrance, la honte, la fatigue? Où est l'usure? Et qu'allez-vous répondre? Si l'on vous parle de la mort possible de notre terre. À mon tour maintenant, je répondrai que j'en ai peur. Je dirai que j'essaie d'y penser sérieusement à cette mort. Mais justement, s'il est question de mort, parlons de la vie. C'est urgent.
Vous êtes déjà venu à la radio, non?
Non. C'est-à-dire, si vous voulez, si, mais hier tantôt pour Radio Genève.
Vous êtes venu ici, dans ce studio, non?
14 ans, 3 ans.
À quelle heure? Hier soir, non? Moi, j'ai oublié de vous demander, c'est parce qu'on aurait pu couper les deux.
Ah, vous êtes changé. Oh, bah écoutez.
Bon, on va essayer d'enregistrer quelque chose, hein?
Oui.
Tu veux que je ferme la fenêtre? Oui. Tu l'entends, le piano, là?
C'était « Moi, Lucéran, aveugle et résistant », épisode 2, « Sortir de l'ombre ». Merci à Zina Végan, Jacques Semelin, Marion Chotin, Olivier Vievurka, Gildas Bréguin et David Jakubowiez. Lecture des textes, Olivier Martineau. Texte extrait de « Et la lumière fut » et « Le monde commence aujourd'hui » de Jacques Lucéran. Prise de son, Sandrine Malon et Martin Troidec.
Mixage, Manon Houssin.
Archivina, Sabine Dahuron et Sylvia Monduc. Attachée de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Thibaut Delavigne et Antoine Jonin, réalisé par Marie Placet.